Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette spéciale Café César où nous nous trouvons au marché du pain de Noël. Bonjour Patrick.
En plein air, bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et voilà, en plein air, il fait pas très très chaud, mais on va se réchauffer le cœur en lisant des histoires de César.
Tout à fait.
Et pour l'occasion, j'ai porté, exceptionnellement, on va faire un petit peu différemment, j'ai porté 5 livres, j'ai porté les 4 Césars et un autre livre qui s'appelle Le Nours, pour qu'on pioche de ci de là dans des extraits, pour qu'on puisse voyager, toi et moi. Et puis, qu'on, voilà, comme d'habitude, qu'on réagisse et qu'on laisse parler nos cœurs. Alors, tu as choisi quel livre, Patrick, parmi les 4 ?
César l'éclaireur.
Ah ben, le fameux César.
César, bien sûr.
Et donc, tu as pioché la page 162, que je vais appeler « César et la ville », c'est tout un poème.
Eh oui.
Comme nous sommes en ville, c'était l'occasion.
Eh oui, César et la ville.
Alors, t'écoute,
c'est
Patrick.
C'est tout un poème, il devait y avoir au moins 10 ans. Qu'il n'était pas sorti de son coin pour avoir de tels yeux. Sous son regard, tout devint un spectacle. Il était affamé du moindre détail insolite, surprenant le hasard, pourchassant l'anodin. Tantôt, il me poussait du coude. Tantôt, il me tirait par la manche, cherchant à me faire partager l'humour de la rue. On aurait dit la complicité espiègle de 2 collégiens en vadrouille. C'est fou. Comment on passe à côté des choses sans les voir. Avec lui, nous devenions des chasseurs d'images. Le passé était mort, il n'avait plus de place, tant le présent s'était mis à régner. Il tomba soudain à l'arrêt devant un magasin. Visiblement, il cherchait à comprendre. J'eus beau m'approcher, je ne vis rien d'extraordinaire. Et pourtant, à ses yeux, il y avait de l'insolite dans cette vitrine, outrageusement illuminée, en plein jour. César et ses bougies. Comment lui expliquer que la lumière ne sert pas uniquement la nuit? C'est sûr, il n'y a plus que lui pour en rire. Qui de nous sait encore le voir? Pourtant, cela doit bien valoir nous dire quelque chose. Éclairer le jour, éteindre la nuit. Peut-être que la lumière ne sert plus à voir, mais à vendre. N'est-ce pas à notre image? Plus loin, il stoppa net devant un panneau publicitaire. Le yaourt qui vous libère, vantait le slogan. Une femme nue, enfermée dans un pot transparent, semblait déguster ce nectar. Cela ne s'invente pas, ces choses-là. Il y en a plein nos murs, des libertés enfermées dans un bocal. La rue devint un délice, suite de paradoxes et de surprises. Enchaînement de sketchs burlesques dont il savait à merveille souligner l'humour. Il eut le genre, Monsieur Dupont-Ventru se battant avec son caniche pour une histoire de caca dans le caniveau, et qui est le plus têtu. Ou encore, ce petit groupe de jeunes hommes prophétisant sur la joie et la paix dans le monde, interpellant la foule d'un ton lugubre, qui est le plus drôle. Il eut même César, assis sur le trottoir pour nouer un lacet. À 80 ans, cela ne se fait pas. Et qui est le plus libre? Ce n'est rien, tout cela, me direz-vous. Mais c'est là, sous nos yeux, respirant l'instant, cette fameuse combinaison du coffre-fort. Et puis, l'émerveillement, c'est gratuit. Tandis que la souffrance a toujours un prix.
On fait une petite pause, Patrick, parce que ça vaut le coup quand même de s'arrêter sur cet extrait. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Mais là, encore une fois, Bernard Montault est visionnaire et il nous montre à quel point aujourd'hui, tout est là, sous nos yeux, pour être vendu. Nous devenons des sociétés technologiques qui n'ont qu'un but, c'est essayer de capter notre attention pour nous vendre des produits quelconques. Il y a quelqu'un qui l'avait très bien dit, c'est Patrick Lelay, l'ancien directeur de TF1, qui disait vendre du temps de cerveau disponible. Et je crois que malheureusement, aujourd'hui, nous vendons du temps de cerveau disponible. Et les médias, la publicité, s'est emparée de ces espaces publicitaires pour nous les vendre. Et nous, les consommons. Au fond, j'allais dire, qui est le plus coupable ? Est-ce nous ? Est-ce ceux qui nous les proposent ? Il y avait Coluche qui avait très bien traduit ça. Il disait « des conneries, à force de vous les montrer, vous les achetez ». Et il avait cette phrase « vous n'êtes pas raisonnable », comme il avait raison.
Moi, ce passage, là où il m'a touché, c'est que c'est le regard de César sur la ville. Comment il fait pour s'émerveiller ? C'est vrai que moi, quand je vais en ville, je n'ai pas forcément le regard émerveillé. Parce que mon regard est accaparé par toutes ces publicités, comme tu dis, par cette consommation et cette agitation. Et j'avais une inquiétude en venant enregistrer là au marché de Noël. Je me disais, mais comment je vais retrouver cette intériorité dont on a quand même besoin pour échanger sur ce thème de la sagesse des cafés César en pleine ville. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire.
Ben oui, parce que c'est vrai. Encore, on est dans un endroit relativement protégé. Il n'y a pas trop de commerce autour de nous. Il y a certes le marché de Noël, les feux qui brillent, mais pas trop. Chamboulé, là non. Moi, je me sens bien.
Alors, je voulais continuer suite à ce passage. On a fait une petite pause à la ville. Et donc, je vais continuer à la page où tu t'es arrêté.
162.
Page 162. Pendant que nous marchions sur les quais pour rejoindre ma voiture, j'ai cru bon de lui parler, de le remercier de tant d'amour et de patience. Et puis je me suis emmêlée dans mes phrases, cherchant à lui prouver que je comprenais la dimension essentielle de ce que nous vivons, de ce que nous vivions. Je me suis enferrée dans un sermon théorique, attestant de ma soi-disant conscience. Je l'ai matraqué d'une suite de clichés, pour finir sur un ton péremptoire, par affirmer ma recherche spirituelle à ses côtés. Il me regarda d'un air franchement abasourdi. Je crois bien qu'il ne me pensait pas si bête. Alors, il eut un déclic et sur le quai, il fit le clown, mimant un Jacques de circonstance, le genre avocat avec de grands effets de manche. Et puis, il sautilla en me caricaturant, s'adressant aux arbres, aux voitures et même à un chien de passage. « Je suis un être spirituel », disait-il en insistant sur le « où ». Il rencontra ensuite une vitrine où il put se mirer dans toute sa grandeur d'âme, répétant à tue-tête « Je suis un être spirituel ». Il fit tant et si bien qu'il me fut impossible de ne pas en sourire, impossible de ne pas voir la maladresse de ma déclaration d'amour. En me poussant jusqu'à rire de ma propre bêtise, n'était-il pas en train de me guérir au lieu de me blesser ? Quel médecin étonnant! Il me glissa alors sur le ton de la confidence. « Mon ami, tes mots sont usés. À force de parler par habitude, on finit par ne plus rien dire. Que le bruit !» Il fit quelques pas, puis il rajouta « Le mystère des mots, c'est le cœur. Soit il l'altère, soit il le désaltère. César t'aime, un point c'est tout. » Je vis mes mots en voie de disparition comparés aux siens. Je vis mes ronds de jambes et mes phrases en poulet, là où il disait un « je t'aime », un point c'est tout. En montant dans la voiture, je me sentis éléphant. À peine assis à mes côtés, il me tapa sur l'épaule en m'annonçant qu'il avait faim, comme d'autres proclamaient la nativité. Avec lui, c'est sûr, il s'agit d'une métaphysique de l'entrecôte grillée. On apprend à poser un pied devant l'autre, et c'est déjà bien suffisant.
Mais qui ne serait pas touché par... ces phrases de César qui sonnent si justes. Et bien sûr, la phrase qui est la plus intéressante, à mon sens, c'est celle dans laquelle il parle du verbe.
Ah
nous
oui.
Utilisons le verbe et aujourd'hui, ces verbes ne sont que du bruit. Nos mots ne veulent plus rien dire. Faites-en l'expérience, amis auditrices et amis auditeurs, et vous allez vite vous rendre compte que nous parlons souvent pour ne rien dire. On a perdu la force et la puissance des mots.
Je savais que ce passage, il te plairait pour justement cette force des mots qui t'est si chère, toi, Patrick.
Et
que tu essayes de faire à travers la radio aussi.
À travers la radio et puis aussi habituer les jeunes et les moins jeunes à parler juste. On dit toujours, on chante juste, mais est-ce qu'on parle juste ? voilà, qui mérite question. Il faudra, tiens, la poser à Bernard Montault.
Oui.
Qu'est-ce que le parler juste ?
Ça, c'est une grande question. Et c'est vrai que pour nous qui faisons de la radio, on aurait... C'est tellement tentant de parler pour ne rien dire. De parler pour occuper l'espace, pour occuper le temps, pour occuper l'antenne. Mais quand est-ce qu'on va parler vraiment ? Avec le cœur.
Et puis, qu'est-ce que veut dire parler ? Parler. Il y a Pierre Bourdieu, un philosophe, qui a commis un livre. Qu'est-ce que parler veut dire ? Et au fond, parler, qu'est-ce que c'est ? Quand je parle, c'est quelque chose qui, quand on y réfléchit bien, c'est de l'intériorité qui sort vers l'extérieur. Je vous raconte une histoire et vous me racontez des histoires quand nous parlons. C'est tout. Il faut que ces histoires soient vraies. Pour que je sois intéressé, il faut que ces histoires nous touchent.
Et alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une question que tu aimerais poser et c'était le petit... C'était juste le petit jeu que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Et si on écrivait une interview, si on avait 3 questions à poser dans cet extrait à César, lesquelles on poserait ? Et après, ça sera par contre à toi d'y répondre, Patrick.
Alors, quelles questions ?
Alors, tu m'en as déjà posé une.
Oui.
Tu as déjà posé une qui était « Qu'est-ce que parler juste ?»
Qu'est-ce que parler juste ?
Alors, je t'invite à y répondre.
Mais parler juste, c'est lorsque... Et je crois qu'il le dit très bien, César. On parle avec son cœur. Et qui mieux que Saint-Exupéry aussi disait « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » Et se parler juste, c'est lorsque le cœur, la tête, sont en harmonie, en équilibre. C'est difficile.
Oui.
Là, on le sent.
Pour moi, parler juste, c'est effectivement parler avec le cœur. Et il y a dedans, et à travers l'exercice que tu as proposé, il y a ce côté d'être transparent aussi. D'être transparent de son émotion du moment, de son état intérieur du moment. De se dire, eh ben voilà, j'ai peur que cette émission elle soit ratée parce qu'on est en pleine rue, parce qu'il y a du bruit autour. J'ai peur de ne pas savoir donner envie d'écouter cette émission. Voilà, c'est... Il y a déjà ça d'en parler juste.
C'est vrai.
Et puis ensuite, eh bien, aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie.
Aller jusqu'au bout. Et ça me... Il y a... J'allais dire un incident. Ce n'est pas un incident, c'est encore une fois les histoires qui nous arrivent à la radio. Ce matin, nous avons reçu un auteur qui venait parler d'un livre de poèmes qu'il avait écrit. Il a été incapable d'en parler. Et lorsque je lui pose la question, vous vous définissez comme poète ? Il me dit non. Vous définissez comment ? Il me dit je ne me définis pas. Une magnifique réponse. Alors, autour, on peut être surpris. Qui suis-je ? Si je commence à me qualifier, et c'est là que je mesure moi aussi l'erreur de langage, je lui dis vous êtes un poète. Non. Si je dis un poète, je l'enferme dans une catégorie. Je suis, tout simplement.
Alors moi, ma question, ça serait sur le passage où César arrive à faire rire en imitant gentiment, tendrement, mais de manière très drôle, Jacques qui faisait un excès de langage, de grandiloquence, de faire l'intéressant, entre guillemets. Et moi, j'ai envie de lui demander, de demander à César, mais comment tu fais pour déjouer ce piège de l'ego, d'en faire trop voilà. Tu me répondrais quoi, toi, Patrick ? Et après, j'essaierai d'y répondre.
Mais c'est vrai que le piège de l'ego, ça complète ce que je viens de dire. C'est-à-dire que nous sommes toujours, on a toujours un trigo moi, moi, moi. Mais ce n'est pas le moi qui est important. C'est cette présence qui est en chacune et en chacun de nous. On pourrait dire c'est le soi, peut-être. Et encore, c'est indéfinissable. Là, donc, c'est pareil. L'ego, effectivement, c'est prendre toute la place. Et cet ego le prend très tôt, la place, lorsque nous avons, en gros, 1 an et demi, 2 ans. Et ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est nous débarrasser, comme le fait César, de l'ego.
Par l'humour, c'est une belle porte. Hein.
C'est une belle pirouette.
Belle pirouette.
Voilà. C'est observer, c'est rire. Rire de tout et rire de soi.
Je pense qu'on peut rire de l'autre que quand on sait vraiment rire de soi.
Exactement.
C'est un grand humoriste qui disait ça. L'humoriste connu, avec les jeux de mots, tu vas me rappeler son
Raymond
nom.
De
Raymond
Vos.
De Vos. Et c'est vrai que quand on sait rire de soi, après, on peut se permettre de rire de l'autre et
Exactement.
Que l'autre ne le prenne pas mal.
C'est toujours, c'est ce qu'il y a de fabuleux dans notre existence. C'est-à-dire que tout passe par soi. Quand on dit, il faut s'aimer soi-même, bien sûr. Mais comment puis-je aimer l'autre si je ne m'aime pas? Comment faire confiance à l'autre si moi-même je ne me fais pas confiance? Tout part de soi. Et il revient inéluctablement.
Alors on va inviter tous nos auditeurs à méditer sur ces quelques paroles. Et puis on va se retrouver juste après. Nous on fait une petite pause. Et puis on va enregistrer la suivante.
Toujours de...
Et toujours au marché de Noël.
Toujours au marché de Noël, bien sûr.
Avec une petite surprise pour Patrick.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt.